Et vous le savez, en ce moment, eh bien, c'est une période de grandes négociations internationales, tous azimuts, bien sûr, sur fond de conflits russo-ukrainiens et israélo-hamas. On consacre ces conversations avec Daniel Haber ce matin sur les enjeux internes que toutes ces négociations ont sur Israël. On le retrouve donc, Daniel Haber, au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, comme tous les lundis matins, pour nos traditionnelles conversations. Alors Daniel, en ce moment, on a beaucoup de diplomatie. Hein. On voit entre la guerre en Ukraine, avec la guerre à Gaza, on a vu des images de Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, lors de l'enterrement du pape au Vatican, qui tenait leur propre conclave. Hein. On entend beaucoup de choses dans les médias. Cette période de négociation, justement, on va en profiter pour réfléchir sur Israël et comment Israël vit cette situation actuelle à l'intérieur de son propre pays.
Oui, la diplomatie est en action. Il y a ce qu'on voit, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, qui est évidemment le plus important, et qui va prendre du temps. Et on est en train de prendre conscience que les problèmes sont beaucoup plus difficiles que ce qu'a annoncé Trump, et que il va falloir vraiment beaucoup de diplomatie. Et pendant ce temps-là, évidemment, Israël vit ce qu'on peut appeler une période très très difficile, avec évidemment des perspectives. C'est vrai que le monde le partage, très incertaine, mais avec beaucoup de risques. Et ces risques, je les vois comme étant trois défis simultanés que la population israélienne doit porter sur ses épaules. Le premier défi, c'est un défi intérieur. Au fur et à mesure que la sécurité d'Israël n'est plus menacée, reviennent à la surface ces contestations internes à la démocratie israélienne, reviennent en force. Et je vais en parler parce qu'elles ont un caractère géopolitique. C'est pas seulement des problèmes intérieurs. Elles ont un écho international. Et ce que je voudrais dire sur les difficultés intérieures, c'est que c'est la fusion au fond de trois contestations complètement différentes. La première contestation, c'est une contestation ancienne, démocratique, sur la façon de désigner, de faire fonctionner la justice et la Cour suprême israélienne. Ça, c'est un problème que les Israéliens partagent avec d'autres pays, comme la France ou même comme les États-Unis. Il y a une contestation qui est la façon dont le gouvernement gère la guerre contre le Hamas. Il y a une partie de la population qui pense qu'il faut donner priorité aux otages et d'autres qui pensent qu'il faut donner priorité à la fin de la menace du Hamas. Et puis il y a une troisième contestation qui est plus globale, qui est au fond sur l'avenir d'Israël, et où une partie de la population pense que le gouvernement qui est défini comme le plus à droite de l'histoire d'Israël a pour but, au fond, d'effacer la question palestinienne, soit par des expulsions, soit par des annexions. Et donc, ces trois contestations qui portent sur des sujets, au fond, assez différents, fusionnent parce que, au fond, ce sont les mêmes groupes, hein, des groupes, au fond, d'Israéliens qui font partie de l'élite, qui sont dans la nostalgie des gouvernements plutôt plus à gauche dans l'histoire d'Israël, qui ont un journal qui est un peu leur porte-voix, qui est à Haaretz, et qui ont eu la même cible, qui est le Premier ministre, qui est jugé au fond comme illégitime, alors qu'il est légal, et qui est accusé au fond de mener une politique internationale qui est conforme à ses propres objectifs égoïstes, et en particulier d'échapper à soi-disant son procès. Donc moi j'en parle parce que finalement ça affaiblit aux yeux des adversaires d'Israël, ça affaiblit Israël. Et beaucoup de gens pensent par exemple que le 7 octobre a été choisi comme date parce que le Hamas jugeait qu'Israël était très affaibli par ses contestations internes, et que ces contestations internes, revenant à la surface, pose un problème géopolitique. Voilà pourquoi j'en parle. Mais en fait, les deux autres situations, les deux autres défis que vit Israël sont évidemment la guerre à Gaza. Et puis le troisièmement, c'est le début de la négociation avec l'Iran et les craintes qu'on peut avoir sur l'issue de cette négociation.
Justement, hein, vous parlez de la guerre à Gaza. Où en est-on? Quelle est la situation actuellement?
Écoutez, le 19 janvier, Israël a signé un accord avec le Hamas et la date ne vous échappe pas, c'était la veille de l'intronisation de Trump. Donc il est clair que les Américains avaient tordu le bras des Israéliens pour qu'ils acceptent cet accord avec le Hamas en trois phases. La phase 1 s'est déroulée aux yeux du monde de façon épouvantable et ça a donné, si vous voulez, de la capacité d'Israël de convaincre les Américains que la phase 2 que les Américains avaient obligé Israël d'accepter était évidemment inacceptable parce qu'elle signifiait la victoire du Hamas, tout simplement. Laisser le Hamas à Gaza, quel que soit son affaiblissement, c'est être certain, et surtout si Israël se retire, y compris de la frontière avec l'Égypte, de ce fameux corridor de Philadelphie, c'est la certitude que le Hamas se reconstitue en quelques semaines, et donc d'avoir fait une guerre d'un an et demi pour rien. Donc les Américains ont compris ça, et donc accompagnent Israël dans une volonté de renégociation, que évidemment le Hamas refuse, parce qu'il lui-même avait accepté cet accord, parce qu'il lui convenait. Donc on est dans une situation où, ce qui est clair quand même, c'est que le Hamas a conservé une capacité militaire qu'il reconstitue. Donc il reste une menace sécuritaire pour Israël. Et deuxièmement, et ça c'est peut-être le plus important, il se vit, le Hamas, comme un acteur géopolitique pour l'avenir. Pour l'avenir de la question palestinienne, mais aussi pour l'avenir régional. Or, tout le monde sait, y compris les Arabes, les Perses et les Ottomans, que tant que le Hamas est dans le paysage, rien ne sera possible. Donc il y a, je pense, un accord à peu près de tout le monde pour dire qu'il faut en finir avec le Hamas. Et malheureusement, ça va prendre encore beaucoup de temps, parce que c'est difficile, et que cette lutte contre le Hamas va se dérouler en parallèle de ce troisième défi que j'évoquais, qu'est la négociation avec l'Iran.
Et oui, l'Iran, hein, la négociation avec l'Iran, on l'a vu ce week-end, un week-end assez chargé autour de ces négociations. On en est où?
Oui, alors les week-ends vont être de plus en plus chargés, mais on voit bien que d'abord il y a deux négociations. Il y a celle entre les États-Unis et l'Iran, où Israël ne peut pas apparaître parce que l'Iran le refuserait. Et puis il y a la négociation la plus importante, à mon sens, entre Israël et les États-Unis. Les Israéliens tentant de convaincre les Américains que la seule solution, c'est le démantèlement de l'équipement nucléaire iranien. L'Iran est bien décidé, évidemment, à garder son équipement nucléaire. Il est prêt à promettre tout ce qu'on lui demandera, et il est prêt à rester ce qu'on appelle un pays du seuil, donc même il accepterait des inspections. Lui, ce qui l'intéresse, l'Iran, c'est la levée des sanctions, donc il est prêt à tout promettre, mais il veut tout conserver. Donc la crainte que les Israéliens ont, c'est évidemment que Trump, comme on le voit avec l'Ukraine, parce qu'évidemment l'Ukraine, c'est un modèle de négociation, que Trump, finalement, à la recherche d'une victoire diplomatique et médiatique, cède trop à l'Iran et accepte finalement de lever les sanctions, c'est-à-dire de sauver le régime, contre des promesses dont le passé a montré que elles ne seraient pas tenues. Donc ça, c'est peut-être le plus grand souci d'Israël.
Et pour conclure, Daniel Haber.
Conclure, Israël vit ses trois défis dans un contexte de grande fatigue. On voit que certains réservistes sont épuisés et font une sorte de résistance passive. Et donc, l'économie résiste, mais va-t-elle continuer à résister à la prolongation de cette guerre d'usure? Donc, si vous voulez, tout ça génère en Israël un seul mot, c'est incertitude. Mais vous savez, ce que fait Trump depuis le 20 janvier, c'est générer de l'incertitude. Donc Israël est en phase avec le reste du monde. Et donc les conversations prochaines essaieront de lever le maximum d'incertitude.
Et cela nous augure de conversations relativement intéressantes dans les prochaines semaines, voire prochains mois, Daniel Haber. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka et on se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine.